Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Ducharme ce matin avec vous en ce 11 mai, au lendemain de la victoire sans appel des Canadiens 6-2 contre les Sabres de Buffalo. Les Canadiens qui prennent l'avance 2-1 dans la série de deuxième ronde, donc on va parler de ça aujourd'hui à l'émission, bien évidemment avec les collègues Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage qui vont être avec moi dans quelques instants. Donc cette série-là avance, il y en a une série qui est déjà terminé. Les Hurricanes de la Caroline qui ont balayé les Flyers de Philadelphie. C'était cool, quand même, deux matchs, dont le quatrième, qui se sont terminés en prolongation. Mais on voit que les Hurricanes étaient une bonne coche en haut des Flyers, au même titre qu'ils étaient une coche en haut des Sénateurs en première ronde. Les Hurricanes qui sont en mission, mais là, c'est une pause. Tu sais, ça sera peut-être pas positif d'avoir gagné tout ça aussi rapidement que ça, parce que là, c'est une pause d'au moins une semaine, peut-être une semaine et demie, tout dépendant le temps que va durer la série entre les Canadiens et les Sabres. Puis, demandez à n'importe quel entraîneur, là, une pause donc comme ça en séries éliminatoires, tu veux pas ça. Regardez les Sabres. Regardez les Sabres en première ronde, puis regardez les Sabres en ce moment. La pause de 4 jours là, après la série, à la fin de la série contre les Bruins, les Sabres sont pas revenus en force. On a perdu notre mojo. Donc, il va falloir voir chez les Hurricanes qu'est-ce que ça va donner. Regardez un gardien comme Frederick Anderson qui est en feu. C'est un gars qui est vieux quand même. Est-ce qu'il va perdre son rythme avec une semaine et demie d'arrêt? Pareil pour certains trios, le trio de Logan Stankoven, Taylor Hall, Jackson Blake qui fonctionne à plein régime. Est-ce que tu réussis à garder ce rythme-là? Comment tu gères tes entraînements aussi? Parce que là, la série entre les Canadiens et les Sabres, le niveau de jeu augmente. Toi, tu tombes en arrêt pendant plusieurs jours. Donc, on va en reparler, bien évidemment. On va avoir le temps d'en parler dans un prochain épisode. Dans les autres séries, hier, les Ducks d'Anaheim qui ont égalé la série contre les Golden Knights. Fun à voir, les Ducks, jeune équipe. On vit à Anaheim un peu ce qu'on a vécu à Montréal. On sort enfin la lumière au bout du tunnel. On sort vraiment de la reconstruction. On a des jeunes joueurs qui livrent la marchandise. T'affrontes une équipe, là, les Golden Knights, qui ont de l'expérience. Mitch Marner qui joue de l'excellent hockey. Mais là, c'est 2-2 dans cette série-là. C'est loin d'être terminé. C'est du très bon hockey qui nous force un peu peut-être à se coucher un peu plus tard. Mais bon, c'est correct. Et finalement, le Wild du Minnesota qui a gagné un premier match dans sa série contre l'Avalanche du Colorado. Est-ce que c'est assez pour revenir dans cette série-là? On va le savoir ce soir. C'est le seul match à l'affiche en ce lundi de l'Avalanche contre le Wild. C'est en direct du Minnesota. Donc, avantage de patinoire, ça va être, je pense que ça va être un bon match. C'est une bonne série. On va voir de tout ce soir. Avant de se lancer, je vous invite, si vous nous écoutez sur le site web d'LNH.com, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de balado, peu importe que vous pouvez trouver. Faites une recherche, la tasse de café LNH. Vous allez nous trouver, justement. Abonnez-vous, suivez-nous pour être certain de ne rater, de pas rater le moindre balado. Sans séries éliminatoires, on n'est pas régulier comme habituellement les mercredis. Donc, suivez-nous, abonnez-vous pour être certain de ne rien manquer. Et on est disponible en vidéo du côté du LNH.com et du côté de Spotify si vous voulez nous regarder. Alors, on lance cette émission. Je les accueille avec moi, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
Salut, Nick.
Et Jean-François Chaumont, c'est le GF.
Bonjour, messieurs.
Messieurs, merci d'être là en ce lendemain de match émotif. Sandbell, il y avait de l'ambiance, pas à peu près. Victoire des Canadiens 6-2. Quand même, performance assez solide des Canadiens. On se demandait un peu après à quoi ça ressemblait en revenant à Montréal 1-1. Mais hier, il y avait une équipe, une seule équipe, on pourrait dire. À partir de la 5e minute de la première période, il y avait une seule équipe sur la patinoire, puis c'était le tricolore.
Ouais, Nick, avant de commencer, je pense qu'on va parler de l'éléphant dans la pièce. La semaine dernière, je te trouvais un petit peu paniqué. Je pense que j'ai retrouvé l'extrait. On va le faire jouer pour nos auditeurs. Attendez deux petites secondes.
Est-ce que vous me permettez de changer ma prédiction?
Non.
Non, mais si j'ai tort, imaginez à quel point vous allez pouvoir rire de moi. Je vous laisse ce lousse-là. Là. Pensez-y.
Vas-y.
OK.
Vas-y.
Je vais dire Buffalo en 6. Je change.
Ça, c'est exactement ma prédiction.
T'avais Canadien en 7?
J'avais Canadien en 7. Puis là, je vais aller avec Buffalo en 6.
Tu t'alignes sur GF, fait que c'est comme...
Ben écoute, je savais que vous alliez me le mettre dans la face. Je savais juste pas de la manière.
Je crie pas victoire encore parce que tu peux avoir raison. C'est encore possible. Mais depuis ce moment-là, Canadien mène 11-3 dans la série au chapitre début. Donc, je voulais juste revenir là-dessus parce que nos auditeurs attendaient ça avec impatience.
Fallait fouetter le tricolore. Écoutez, je m'en suis chargé avec la prédiction. Non, mais écoute, soyons francs. Est-ce que vous avez vu les mêmes sables lors des deux derniers matchs que vous avez vus lors du premier match?
Mais là, ta prédiction, ça reste très girouette, Nick, là, premièrement.
Non, je vais rester avec Buffalo. Je reste avec Buffalo.
J'ai de la misère à garder la tête froide pour analyser cette série-là. On a vraiment, je trouve, un départ de série en deux temps. Un premier match où les Sabres dominent contre une équipe qui retombait aussi de grandes émotions après la victoire en 7 contre le Lightning. Puis les deux derniers matchs, mais Guillaume le disait, c'est 11 buts contre 3. Il y a une équipe sur la patinoire, puis elle porte un chandail bleu, blanc, rouge. Mais tu sais, il faut quand même rester prudent. C'est peut-être mon côté sage qui ressort. La dernière fois que les Sabres ont perdu 3 matchs d'affilée en temps réglementaire, il faut reculer au 3, 5 et 9 décembre.
C'était le voyage dans l'Ouest où les choses ont changé de côté là, chez les Sabres.
Exact.
Donc,
c'est déjà arrivé 3 défaites d'affilée au mois de mars, mais il y avait 2 revers en prolongation, les 22, 25 et 27 mars. Donc, c'est une équipe qui, en temps normal, réussit à faire des ajustements. Lindelof a du pain sur la planche parce que là, la profondeur des Sabres qu'on a vanté après le premier match, le CH a complètement gagné la bataille de la profondeur. Le talent défensif des Sabres, le gros top 4, on les voit moins. Rasmus Dahlin perd patience, il est indiscipliné. Logan Stanley est tout croche à la ligne bleue avec Connor Timmins. Les trios aussi de profondeur du CH, là c'est bravo à Martin Saint-Louis qui a ressorti la table à dessin, qui a concocté 4 trios différents. Newhook, Evans et Demidov sont en train de donner une varlope aux joueurs des Sabres dans les matchs 2 et 3. Puis, tu sais, même le quatrième trio, Zachary Bolduc, Joseph Veleno, Kirby Dach jouent du bon hockey. Donc, tout roule du côté du CH. Le quatrième match, à mes yeux, devient vraiment un match pivot. Avec une avance de 3-1, je pense que ça serait très, très, très difficile pour les Sabres de revenir. Mais écoute, moi, je m'attends à voir Buffalo rebondir. Je pense qu'il y a du talent dans cette équipe-là. Trop de talent. Mais il faut peut-être aussi se poser des questions, Alex Lyon, ou l'homme aux 28 cas dans son nom, avec qui tu reviens pour le quatrième match.
On va en parler plus tard, mais tu amènes un point. Là. Est-ce qu'il y a un moment donné dans cette série-là où les Sabres ont joué à la hauteur de leur talent? Moi, j'ai trouvé, même dans le premier match, puis Lindelof l'a dit, Lindelof n'avait pas aimé le premier match. Là, tu viens d'en jouer 2 très mauvaises. T'arrives avec ce momentum-là pour le match numéro 4 dans le zoo qui est le Centre Bell présentement et l'extérieur du Centre Bell, je veux dire, c'est... On est juste en deuxième ronde puis on se croirait en finale de la Coupe cette année tellement il y a de l'ambiance puis tout ça. Tu sais, t'as le vent, là. Faut pas juste que tu vires un petit bateau, là. Faut que tu vires un paquebot de la manière que tu joues depuis le début de la série chez les Sables.
Moi, je me suis fait rabrouer là, la semaine dernière quand j'ai dit que les Canadiens n'avaient pas si mal fait dans le premier match. Si tu regardais les statistiques, honnêtement, à la fin, j'ai pas les chiffres sous la main, là, mais tir tenté, chance de marquer et tout ça, on était à peu près à jeu égal avec les Sabres. Où on s'est fait dominer, c'était dans le jeu en transition. Les contre-attaques, les chances sur les contre-attaques et tout ça, les Sabres avaient largement dominé. Et ça, Martin Saint-Louis, c'est... assurément le point qu'il a abordé avec ses joueurs après le premier match, parce que depuis ce temps-là, le Canadien est beaucoup plus prudent en jeu de transition, se fait moins prendre à contre-pied, donc là, on coupe cet aspect du jeu-là au sabre. Donc, ils se doivent de, tu sais, on parle d'un aspect où on a fait jeu égal dans le premier match, ils se doivent de s'installer en zone adverse, puis de passer du temps, puis réussir à provoquer des chances. Ça se produit plus vraiment depuis le premier match. C'est un peu brouillon du côté des Canadiens. Donc, est-ce que les Sabres ont joué à la hauteur de leur talent? Peut-être pas, mais j'ai l'impression que côté technique, côté tactique, les Sabres n'ont pas vraiment de réponse au jeu du Canadien. Défensivement, on a beaucoup de difficultés. Combien de fois par match on donne des 2-1, des surnombres, des chances en contre-attaque? C'est vraiment... c'est plus que le gardien. Là. Alex Lyon n'a pas été excellent, on va le dire. Mm-hmm. Mais devant lui, ben, Lindy, c'est...
Je te corrige, Guillaume. Lindy Ruff, hier, a dit que Alex Lyon a été excellent. Tout le match.
Un gardien.
Je sais, vous étiez les, vous étiez les deux dans le vestiaire des
Lindy était gentil. C'est tout.
Oui, mais mon point était, puis c'est vers ça que je m'en allais, quand tu en sens un gardien de même qui, à mon avis, n'a pas été excellent, est-ce que c'est que tu mets justement la table pour brouiller les cartes puis justement amener ton autre gardien? On en parlera au pays tantôt.
Ben, c'est parce que Jakub Dobesch...
J'ai été surpris de l'entendre.
Jakub Dobesch en troisième période, alors que c'était 4-2, je crois. Le Canadien menait par deux buts, puis on avait l'impression que le but suivant allait être important, pour reprendre le bon vieux cliché. Dobesch a multiplié les miracles en avantage numérique. Ça a été de gros arrêts. Le Canadien remonte la patinoire une fois. Lyon se retrouve face à son filet, laisse le rebond de la bande passant de ses jambières. Kirby Dack fait 5-2, c'est terminé. Là. C'est pas un gardien. Pour ma part, c'est pas de l'excellence. Il faut que tu répondes fort quand tes joueurs se mettent à dominer puis à passer du temps à zone adverse. Ça, il l'a pas fait. Donc, oui, il y a un peu du gardien. Il y a beaucoup de la défensive. Honnêtement, le top 4 au One Power, je le trouve pas si convaincant que ça depuis le début de la série. Puis c'est une grosse scène, là. On parle du Centre Bell. Puis hier, j'ai l'impression, tu sais, Lindy Ruff, je pense, en matinée, a dit que ça va être, l'ambiance va être équivalente à celle de Buffalo. Mais excusez-moi, c'est quelques crans au-dessus. Puis les Sabres, c'est une jeune équipe, on l'a dit aussi, qui n'ont pas tant d'expérience que ça.
Ils n'en ont pas.
Hier, quand ça a commencé à débouler, ça a vraiment déboulé. Là. Fait que c'est plusieurs éléments mis ensemble, mais j'ai pas l'impression que les Sabres, au niveau tactique, au niveau défensif, pour le moment, ont la réponse au jeu du Canadien.
Mais Guillaume parle de niveau tactique, niveau défensif. Là, les Sabres me font penser à une espèce de combat de boxe entre deux boxeurs poids lourds, puis ils veulent y aller coup pour coup. Ils vont pas se soucier de la confrontation, ils vont pas se soucier d'essayer de matcher des trios. Ils vont vraiment, on dirait, talent contre talent. Là, pour l'instant, ça marche pas. Niveau défensif, il y a Rosenberg qui avait une phrase célèbre en disant d'un boxeur qui est tellement mauvais défensivement qu'il bloque les coups avec sa mâchoire. Mais là, en ce moment, ça ressemble à ça un peu, les Sabres. Ils ont zéro défensive. Ils donnent beaucoup trop d'espace. Le Canadien peut y aller en relance. Puis, force est d'admettre, le Canadien aussi en ce moment a un bel équilibre. Alex Newhook qui réussit à marquer des buts à un rythme qu'il n'a jamais fait en saison régulière. Kirby Dack qui a marqué un gros but. Zachary Bolduc, l'attaque vient d'un peu partout. Tolain Hudson qui continue de créer sa magie à la ligne bleue. Tu sais, si tu regardes les confrontations, au premier tour, c'était peut-être Hudson contre Radish. Hudson a gagné facilement. Depuis le début du deuxième tour, Hudson contre Rasmus Dahlin. Dahlin pour un gagnant du Norris. Pas un gagnant, mais un finaliste au Norris. Je trouve que c'est plus Hudson qui ressemble à un finaliste du Norris. Puis t'as Alexandre Carrier qui hier joue 24 minutes. Le quatrième défenseur ou cinquième défenseur du Canadien, que ce soit Carrier ou Goulet, donne de précieuses minutes versus quand tu tombes au numéro 5 des Sabres, t'arrives à Connor Timmins ou le grand Logan Stanley. T'sais, Stanley, sa grande qualité, il est 6 pieds 7 à chacune de ses présences, comme a déjà dit Mike Babcock au sujet de Frédéric Gauthier. Mais ça s'arrête là dans le cas. J'ai hâte de voir aussi, est-ce qu'il va y avoir de la jonglerie? Est-ce qu'il va y avoir un début d'impatience ou plus d'urgence du côté des Sabres? Il y a à peu près 22 patineurs réservistes. Là. Toutes les Black Aces suivent l'équipe. C'est peut-être le temps aussi d'essayer de piger dans ta profondeur puis d'y aller de quelques changements.
Pour en ajouter sur ce que tu disais sur Newhook, le trio de Newhook, Evans, Demidov à 5 contre 5 dans cette série-là, c'est des stats publiés par Guillaume Villemaire, ouais. Le statisticien de TVA Sports. Au chapitre début, c'est 2-0. Les tirs, 17-4. Chance de marquer, 15-6. T'sais, on parlait de la profondeur, mais depuis qu'Evans est avec Demidov et Newhook, faut avouer que ça donne des résultats. Donc, c'est une autre décision. C'est des combinaisons qu'on n'a pas tant vues en saison régulière. Puis Martin Saint-Louis réussit à les dénicher comme ça en jonglant un petit peu avec ses trios. Puis jusqu'à maintenant, il a la main vraiment heureuse avec ça.
Une autre Un autre endroit où ça fonctionne bien, c'est dans le cercle des mises en jeu. Puis ça se reflète aussi dans comment la série se passe. Quand tu regardes hier, là, je pense qu'on a été 62,3% dans le cercle des mises en jeu. Tu parlais de New Hook en prend des mises en jeu, Jake Evans en prend, t'as une deuxième option à des endroits. T'as Suzuki, hier, vraiment, tout le monde a été... je pense qu'il y a juste Evans là, qui a un pourcentage négatif. Là, il est 4 en 10, là, mais pour le reste, tout le monde est dans les positifs. Quand tu commences avec la rondelle, à domicile en plus sur ta présence, c'est là que tu parviens à établir le rythme, puis c'est ça qui fait mal à Buffalo. Là. Jamais on est capable d'établir un rythme, alors que c'est ce que les Canadiens font, puis ça se voit, là, c'est une des grosses différences. Vous avez parlé aussi de à quel point tout va bien au niveau de la profondeur, tout ça. Zachary Bauduc joue du hockey incroyable présentement. Encore hier, il est ressorti avec un but puis 3-4 bleus en plein milieu du visage. Mais c'est un joueur Bauduc qui a élevé son niveau de jeu en première ronde puis est encore en train de le faire en deuxième ronde.
Oui, absolument. Puis ce qui me surprend, moi, c'est que Zachary Bauduc, pour l'avoir couvert au niveau junior, des fois, on remettait en doute son sens de la compétition puis son implication dans le jeu et tout ça. Puis c'est un joueur complètement transformé. Tu sais, c'est un joueur qui a compris. Martin Saint-Louis disait après le match, oui, marquer des buts, c'est beau, mais là, on lui demande de jouer la game. Puis la game, pour lui, c'est un gars d'énergie, un gars de troisième trio qui, oui, peut contribuer comme il l'a fait hier. Mais honnêtement, c'est un fatigant, pour ne pas dire un autre mot. Il est dans la face des joueurs des Sabres à longueur de soirée. Hier, honnêtement, il restait 3 minutes à jouer à ce match-là. Les Sabres en avaient visiblement assez de Zachary Bauduc. Le courageux Logan Stanley l'a empoigné par derrière. Josh Norris s'est rué sur lui au même moment. On était deux sur Zachary Bauduc. Ça veut dire que le gars joue tu dans gosses. La tête. Ouais, c'est ça.
En bon français, tu gosses.
Tu gosses pas mal. Puis, tu sais, je lui ai demandé après le match, c'est quoi la clé pour entrer dans la tête de l'adversaire. Puis il dit, c'est rien de particulier, mais c'est un style de jeu fatigant, c'est un style de jeu physique, puis c'est un gars qui n'arrête pas au coup de sifflet. Là, hier, beaucoup de punitions de rudesse pour Zachary Bauduc. Au moins, il a attiré un adversaire à chaque fois, ou presque. Mais il joue bien entre les sifflets, puis entre les sifflets aussi.
Mais juste l'image de Zachary Bauduc, il était assis à côté de Cole Caulfield pour la conférence de presse d'après-match, puis Guillaume l'a remarqué aussi pendant que Bauduc parlait, il y avait des graphings à 3 endroits différents juste au niveau du visage. Donc ça, c'est le résultat de quelques batailles après les coups de sifflet. Puis Martin Saint-Louis en parlait aussi, la différence, c'est que maintenant en série, tu joues contre la même équipe entre 4 et 7 matchs. Donc tu finis par créer des histoires, tu finis par taper sur les nerfs à certains rivaux. Puis dans ce jeu-là, Bauduc joue très bien, mais c'est un bon patineur. Je pense aussi que c'est simplement un gars qui a eu besoin de temps pour comprendre le nouveau marché, comprendre la nouvelle équipe avec qui il jouait, avec qui il se retrouvait. C'est pas facile non plus pour un Québécois de débarquer
seulement
à Montréal.
Seulement 21 ans.
Ben exact. Là, il n'y avait pas 400 matchs d'expérience avec les Blues de Saint-Louis. Là, c'était sa saison recrue l'an dernier. Il se fait changer au cours de l'été. Donc, on voit le talent de Bauduc, mais aussi son côté compétiteur, le chien en lui. Il y a Zach Benson qui aime ça parler du côté des Sabres, qu'il fait à tout moment. Mais il n'y a pas une seule fois où Bauduc a reculé depuis le début de cette série-là.
Puis là, on parle d'être la peste et tout ça, mais son but qu'il a marqué hier, il est à un moment tellement important parce que le tricolore vient de se faire refuser un filet de Philippe Dano, la rondelle est entrée. Bon, est-ce qu'il y avait contact? Est-ce qu'il y avait.
Yannick Jean, l'entraîneur des Saguenay de Chicoutimi, a déjà dit un bon but refusé. Un but qui était bon. Sûrement. Qui a été refusé. Fait que, on peut laisser la place à l'interprétation, mais je pense que ça s'appliquait bien dans ce cas-là.
C'est ça. Martin Saint-Louis n'est pas allé à la contestation. Donc, tu te retrouves dans une situation qui peut être frustrante. Tu sais, mentalement, ça peut te heurter parce que tu tentes de prendre une avance de 3-1, puis c'est Bauduc qui compte quelques minutes après. C'est un but qui est extrêmement important parce qu'il lance les Canadiens sur un momentum qu'on va profiter pour le reste de la partie. Donc, Bauduc, présentement, là, c'était tout les souris. Puis c'est la poursuite de... Il n'y a pas un trio, présentement, chez les Canadiens qui n'a pas une histoire. Il n'y a pas un trio que ça fonctionne, qu'il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a des problématiques. Même Cole Caulfield, je sais que c'est l'avantage numérique, mais Cole Caulfield, hier, il a marqué un but, puis c'est lui qui a causé la pénalité, c'est lui qui était à la cible sur la pénalité qui a précédé l'avantage numérique. Bien, encore là, c'est de la confiance que tu mets dans ton petit sac à dos là, pour tout le monde. Tout le monde joue avec énormément de confiance.
Mais Nick, tu parlais du but de Bolduc, tu sais, qui fait 3-1. Moi, ça me faisait penser un petit peu au but de Carrier dans le deuxième match à Buffalo, le but à Assommoir là, qui vient éteindre l'autre équipe. Dans le cas de Bolduc, c'est arrivé beaucoup plus tôt dans le match. C'était en deuxième période, mais cette deuxième période-là, c'était tout à l'avantage du CH. On parle des trios, de la jonglerie de Saint-Louis, comme quoi il y a la main heureuse. Là, ça fait quoi? Ça fait une quinzaine de minutes qu'on se parle, puis on n'a pas encore dit un mot sur Jakub Dobesch.
C'est ça.
Dobesch aussi était, tu sais, pour un 6-2, Dobesch a quand même été une grande histoire à l'intérieur de ce match-là. Pas juste pour tout l'amour qu'il a reçu de la foule. Les Sabres en troisième période ont été dangereux avec un avantage numérique à un moment dans le match où c'était 4-2. Il a fait un arrêt incroyable contre Alex Tock du bout de la jambière. Si cette rondelle-là rentre, t'as le centre belle qui se refroidit un peu, t'as des partisans, t'as une équipe qui devient subitement plus nerveuse. C'est jamais arrivé. Dobesch s'élève, puis c'est quand même beau à voir là, la pression montréalaise. Lui, pour l'instant, il carbure à ça. C'était fou de voir son visage s'illuminer. Là, il y a eu une belle prise de caméra quand on voyait la pancarte là, de signalisation stop là, avec le nom de Dobesch, l'arrêt stop. Tu voyais le sourire de Jakub Dobesch. Il profitait du moment. Il riait en plein milieu du match. Tu as Beck Malenstein aussi qui joue le vilain là, en oubliant de freiner, en fonçant sur Jakub Dobesch. Mais résultat, le Canadien marque en supériorité numérique après. Puis Dobesch qui célèbre le but comme s'il venait de gagner la série, puis après ça, qui patine en direction du banc des Sabres, qui glisse quelques petits mots doux à l'oreille des joueurs des Sabres. Puis tout ça, ça fait en sorte qu'il ne se perd pas non plus. Là. Il garde sa concentration. C'était le fun à voir.
Jeff, je vais même ajouter une autre couche à tout ce que tu dis. Le but de Tage Thompson en ouverture de match.
Ouais, aurait pu le rebond, ouais, aurait pu faire mal.
Ça aurait pu venir lui jouer dans la tête, ça. Ça aurait pu, écoute, je fais rien de mal, puis je me fais marquer. Mais encore là, il est revenu solide, solide, solide. On en avait parlé dans le dernier balado, moi, un balado précédent, où je disais que je trouvais que mentalement, il ressemblait un peu à Patrick Roy dans le niveau de confiance, dans l'attitude.
Là, je te trouve rapide encore avec Patrick Roy, ça.
Juste mentalement. Ben, nomme-moi un autre gardien qui était solide entre les deux oreilles de même.
Ben, José Théodore, assez belle. Années, Cristobal Huet a eu de bons moments, Carey Price était très, très, très... Ben, Carey Price a eu des montagnes russes là, avant de devenir le Carey Price qu'on connaît.
Je comprends ce que tu dis, Nick, dans le sens
swagger,
où...
c'est le mot je cherche, c'est swagger.
La petite arrogance, okay, si on veut, peut-être.
C'est ça, Carey Price n'était pas reconnu pour son swag. José Théodore, il jouait de la guitare aussi, mais c'était pas la même affaire. Comprenez, il y a ce swag... Là, les gens, je ne sais pas, en Europe, peut-être vous le dites plus que nous, même là, au niveau
swag,
mais
c'est un mélange de confiance
et arrogance. Mm-hmm. C'est difficile de trouver ce mot-là en français. Ah, mais
ce qui est impressionnant, c'est que même en faisant ça, il y a des gardiens qui, tu sais que s'ils sortent de leur match de cette façon-là, ils vont se faire battre dans les minutes qui vont suivre parce qu'ils sont sortis complètement de leur bulle puis de leur concentration. Jakub Dobesch sort de sa bulle à peu près à chaque coup de sifflet, parle avec les adversaires, se jette sur Zach Benson dans le deuxième match, puis revient en force. On dirait qu'il dit « OK, vous voulez jouer à cette game-là? » Ben, il n'y en aura pas plus qui vont rentrer. Tu sais, je suis là et tout ça. Moi, ça m'impressionne parce que d'être capable de rester dans son match, même si t'es impliqué dans tout ce qui se passe dans le match, là, tu sais, qui est autre que d'arrêter la rondelle. Ça, c'est ce qui m'impressionne le plus. Puis en saison, on l'a vu par moment, mais c'était pas quelque chose qui était constant. Mais là, c'est chaque match, chaque arrêt, chaque coup de sifflet, Jakub Dobesch va être dans la mêlée. Puis tu sais, hier, quand il regardait l'écran géant, puis qui souriait en plein match. Tu sais, les joueurs, ils voient quand ils sont à l'écran géant, mais souvent, ils font comme si de rien n'était, puis ils réagissent pas. Puis tu voyais que Dobesch avait comme envie d'interagir avec la foule à ce moment-là. Fait que c'était sympathique, mais c'est très, très rare qu'on voit un joueur, justement, tu sais, sortir complètement de son match pour faire un petit clin d'œil aux partisans comme ça.
Tu sais, à l'inverse, à une certaine époque, c'était Jeff Hackett. Fallait pas lui parler les jours de match. Là. Il fallait pas que tu lui déranges.
Tu touches à une jambière, fallait pas que tout son équipement.
C'est ça, exactement. Puis là, t'avais. Puis un autre endroit où je l'ai vu avoir cette confiance là, cette croissance dans sa confiance, dans son entrevue après match avec Elisabeth Rancourt.
Ouais.
Regardez, si vous pouvez revoir ça, Elisabeth a posé une question. Il y a eu une longue ovation. Dobesch aurait pu prendre le micro puis se mettre à faire un speech de preacher à toute la foule. Il a répondu avec du français, tout ça. Merci, bonsoir, puis il quitte. Il n'y a pas eu de...
Ouais. C'est normalement, ça, c'est côté, Isabelle Drago, c'est Marc Denis, ou peu importe, va. Là, à Jacob, c'est ça, il sait comment faire lever la foule.
Ouais.
Puis c'est le fun aussi de voir... Je pense que c'est un gardien qui a besoin d'émotion. Lui, un match calme, un mercredi soir contre Columbus au mois de janvier, c'est pas ça qui va trop l'exciter. Mais là, dans une série où la rivalité augmente, premier tour pour un gardien qui reste une recrue, c'est la première fois qu'il y a le flambeau là, comme numéro un en série. L'an dernier, il avait remplacé Montembeault. Premier tour, il y avait quand même André Vasilevski devant lui. Jamais tu l'as senti nerveux ou quoi que ce soit contre Vasilevski. Là, contre Alex Lyon. Alex Lyon n'a pas le CV d'un Vasilevski, mais c'est encore un très, très bon deuxième tour pour Debesh. Puis tu parles de ses entrevues. Hier, après le match, quand le collègue Mike Zeisberger lui pose comme question, as-tu le sentiment que tu deviens une sorte d'héros culte du côté de Montréal, dans une ville qui est riche en gardiens? Puis il part à rire en disant non, tu sais, je suis pas un héros, je suis un goofy goalie, qu'on a traduit comme un bouffon de gardien ou un gardien parfois maladroit, peu importe l'utilisation, le terme. Mais tu sais, il fait le travail, il fait les arrêts au bon moment, puis il disait non, moi j'ai rien d'un héros. Là. Il dit ce soir, là, je vais arriver chez moi, je vais manger, je vais regarder Game of Thrones, puis je m'en vais me coucher. Fait qu'il dit ça, c'est pas une routine héroïque. C'est un gars, par contre, qui s'amuse. Mais après ça, je repensais aussi à la petite réponse de Cole Caulfield en conférence de presse, quand, encore une fois, Mike Zeisberger lui demande, il lui rapporte les propos en disant que Dobesch ne se sent pas comme un héros, au contraire, qu'il se voit comme un goofy, un gardien bouffon. Puis Caulfield qui répond en disant, mais je suis surtout heureux qu'il n'en ait pas dit plus. Ça, c'est un petit clin d'œil peut-être au gardien qui, à quelques reprises, s'est enfargé devant les médias en parlant trop. Je pense pas que c'est un gardien qui est nerveux de donner des entrevues. C'est plus une équipe qui reste parfois sensible et nerveuse à qu'est-ce qu'il va dire. Parce que l'expression anglaise, là, un loose cannon, c'est le cas des fois avec Dobesch. Il est assez imprévisible quand il y a 8 micros sous le nez.
Petite nouvelle de dernière heure. Les Canadiens rappellent Owen Beck, Adam Engstrom, David Reinbiker et Florian Jacquet. Si les as noirs du côté des Sabres sont nombreux, ben là, on va en avoir quelques-uns du côté des Canadiens qui vont suivre l'équipe jusqu'à la fin du parcours éliminatoire.
Oui, exactement. Le Rocket qui a été éliminé par les Marlies de Toronto ce week-end. Il faut bien qu'il y ait une équipe à Toronto qui ait un peu de succès sur la glace en ce moment. Vous êtes les Sabres. Deux catastrophes les deux derniers matchs. J'ose utiliser le terme peut-être un peu fort, peut-être pas. Je vous laisse décider. Qu'est-ce que vous faites comme ajustement? Là? Comment on revient ça? Parce que Lindy Ruff, hier, je regardais son entrevue, là. Ça sentait pas l'optimisme, ça sentait pas... Tu sais, j'ai pas vu le même niveau d'optimisme, le même niveau de solution, de se mettre en mode solution que les Canadiens après le premier match. Souvenez-vous, après le premier match, les Canadiens, non, mais on a vu des choses, on sait ce qu'on peut faire, on va travailler là-dessus. Puis hier, Lindy Ruff, je le trouvais, donnait beaucoup de crédit aux Canadiens, puis au contraire, je le sentais pas ça. Les joueurs aussi, la mine était basse aussi chez les Sabres. Là, tu surveilles ça comment alors que tu n'as pas beaucoup de temps? Le prochain match, c'est demain. C'est encore une fois à Montréal.
Il a lancé un peu un message de « faut se réveiller, faut se rendre compte que cette équipe-là ne nous donnera pas de cadeaux » et tout ça. Donc, c'était moins dans la solution, comme tu dis, que plus essayer de fouetter ses troupes qui jouent un peu mieux. Tu sais, on a parlé du but de Zach Bolduc hier. Les deux joueurs sur le repli qui l'échappent, c'est Tage Thompson et Alex Tuch. Le premier trio des Sabres est complètement... Oui, il y a eu le but de Tage Thompson en début de match, mais pour le reste, c'est pas un trio qui est aussi menaçant qu'il était en saison régulière. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que les Sabres, on a parlé, ils n'ont pas eu beaucoup de séquences de défaites depuis que ça s'est mis à bien aller. Donc, est-ce qu'on a fait face à assez d'adversité du côté des Sabres? C'est bizarre à dire parce que c'est une équipe qui a eu de l'adversité pendant 13 ans, 15 ans, je sais pas, je me souviens plus exactement. Mais là, depuis que ça va bien tout le temps. Puis on n'a pas eu à « oh, il faut replacer les choses, puis il faut se remettre à jouer de la bonne façon » parce que, bon, ça s'arrêtait à deux défaites, puis on revenait avec une victoire, puis on continuait notre chemin comme ça. Là, on fait face à de l'adversité. On est une jeune équipe. On n'a pas appris à perdre, entre guillemets, en série. Tu sais, le Canadien, l'an dernier, a vu c'était quoi une série qui lui glisse entre les mains. Là. Et ça s'est rapidement... les espoirs se sont rapidement amenuisés l'année dernière. Puis là, cette année, on a été capable, après chaque défaite du côté du Canadien, de répondre avec une victoire. Là, les Sabres se retrouvent dans cette situation-là où les choses sont en train de leur glisser entre les mains et on n'a pas vraiment cette expérience-là pour dire « Hey, on l'a déjà fait, on sait exactement comment réagir et tout ça. » Fait que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que oui, ça va bien chez les Sabres depuis le mois de décembre, mais on n'a pas eu à se relever après une longue période d'adversité. Le Canadien a eu des séquences de défaites. Je sais pas, cette année, là, ça atteint quoi? Cinq matchs, trois? Peut-être, à mon avis? Trois, quatre, cinq?
On a, est-ce que, je pense que c'est à partir de décembre qu'on n'a pas plus que trois défaites de suite. Là. J'ose pas...
Chaumont n'a pas l'air de nous écouter, mais...
Ouais, je t'écoute. j'ai regardé les statistiques. J'ai pas regardé du côté du Canadien, j'ai regardé du côté des Sabres pour trois défaites d'affilée. Là.
Ouais, mais de mémoire, il me semble qu'il y a eu une séquence un petit peu plus longue où ça a été un petit peu plus difficile.
Même contre
mais...
les Bruins, je veux dire, contre les Bruins, on n'a pas vraiment fait face à de l'adversité. Là. Chaque fois qu'on a perdu un match, on avait quand même le dessus dans la série. C'était pas...
Et c'était complètement
c'était
différent.
C'était pas problématique, là.
Bowen
ça, là.
Byram disait, après le deuxième match, ou le premier match, après le premier match à Buffalo, a dit... Je me suis comme souvenu que les équipes faisaient de l'échec avant, là, tu sais, parce que dans le sens où les Bruins fermaient le centre de la glace, mais n'appliquaient pas nécessairement de pression. Donc, c'est un tout autre animal que le Canadien. Puis, pour l'instant, les réponses ne sont pas là du côté des Sabres. Je sais pas comment on se relève. Moi, j'irais avec un changement de gardien, peut-être fouetter les troupes. Ça n'a pas été si bien pour Jukka-Pekka Luukkonen en première ronde, mais. Si tu veux changer quelque chose, essayer de créer une étincelle, ben c'est peut-être la solution plus facile du côté des Sabres.
Ouais, puis je regardais aussi, tu sais, est-ce que tu amènes un changement à la ligne bleue? Est-ce que tu tasses Logan Stanley pour Michael Kesselring ou Luke Shen? Ils ont quand même deux vétérans qui attendent leur tour. Kesselring n'a pas connu une bonne saison cette année, mais l'an dernier en Arizona, c'était un défenseur qui était honnête. Luke Shen a de l'expérience, a déjà joué des matchs en série. Mais je suis curieux aussi de voir, est-ce que tu peux intégrer un Noah Oslund qui a joué trois matchs contre les Bruins au premier tour, qui a eu deux points. Le temps de jeu de Jason Zucker au dernier match, 6 minutes 47 secondes. Mm-hmm. C'est un ailier qu'on n'a pas vu beaucoup dans cette série-là. C'est un vétéran par contre, Zucker. Est-ce que tu oses tasser un Jason Zucker? Hier, quand même, Ruff lui envoie un message là, quand Zucker joue en bas de 7 minutes.
Ouais, ben, il a expliqué, il a dit il, en n'étant pas sur le premier avantage numérique et ouais,
en jouant
pas,
les avantages pas
sur le désavantage numérique, il a été pris entre les deux chaises, mais effectivement, il n'a pas dit non plus je veux qu'il joue plus, on comprend. Ouais. Là,
il y a Jack Quinn qui, quand a des chances.
Il n'a pas tout fait pour l'envoyer sur la glace, moi,
non,
c'est ça.
Non, Jack Quinn, quand il a des chances, il rend hommage au mauvais Josh Anderson. Quand on n'aime pas Josh Anderson qui manque la cible, mais Quinn,
l'ancien
Josh Anderson, exact, Alex Newhook.
Non, l'ancien Alex Newhook aussi, oui.
Mais je pense que la relance des Sabres, t'as beau te chercher de midi à 14h, ça passe beaucoup par le premier trio. Tage Thompson, Alex Tuch. Thompson a un but, une passe hier, mais il y a beaucoup de frustration aussi dans son jeu. Puis quand on parle de frustration, c'est idem avec Rasmus Dahlin. Les meilleurs joueurs des Sabres doivent être les meilleurs. Ça peut être le cas au quatrième match, mais Ruff doit se poser des questions. Ça vient vite, cette série-là.
C'est
après
ça,
trois là. Matchs, t'es sans être dans le trouble. S'il gagne le prochain, tu repars à 2-2, tu retombes avec l'avantage de la glace pour un 2-3, puis on parle complètement d'une histoire différente. Mais en ce moment, l'élan est drôlement du côté de Montréal.
Puis je vais ajouter à ce que Guillaume disait, qu'on n'a tellement pas eu d'adversité en fin de saison qu'on n'a pas testé des combinaisons comme Martin Saint-Louis a pu faire. Mm-hmm. Est-ce que tu démantèles ton trio? Est-ce que tu envoies Alex Tuch, tu l'échanges avec Josh Doan? Est-ce que tu bouges Tage Thompson? Je pense qu'on se fait rattraper présentement par le manque de... Ouais, tu l'as bien dit, le manque de d'adversité. Les derniers matchs des Canadiens où on a pu tester des trios, je pense que présentement, c'est vraiment, mais vraiment là que ça paye. Alors que les Sabres, eux, se battaient pour, souvenez-vous, l'avantage de la glace,
ouais, pour le
l'avantage
sommet.
De la patinoire, là, jusqu'à la fin, ça a été une grosse différence. Puis oui, là, tu changes de gardien. Là. Tu renvoies UPL parce que En première ronde, là, il s'est fait retirer dans le deuxième match, mais c'était pas catastrophique non plus. Là. C'est un gardien qui, sur papier, c'est le numéro un de cette équipe-là. Là. C'est le temps de le renvoyer. Si tu le renvoies pas là, tu le renvoies quand? Je veux dire, la porte est ouverte.
Ouais, mais
c'est un gardien qui est plus gros aussi. Là.
C'est un jeu qui peut être dangereux parce que là, si tu décides de sortir Lyon, puis Ukko-Pekka Luukkonen en donne 5 au prochain match aussi, parce que c'est croche devant, là, on s'entend, là, c'est pas tout. Ça repose pas seulement sur les épaules du gardien. Mmh. Ben là, tu te retrouves peut-être avec un retard de 3-1 dans la série, puis une décision à prendre pour quel gardien tu envoies devant le filet pour un match sans lendemain comme ça. Donc, c'est un. Je comprends, j'ai compris la décision d'y aller avec la constance, de revenir avec Lyon hier, mais c'est quand même une décision qui peut avoir des implications un peu plus tard dans la série. Là. Si tu te mets à jongler entre deux gardiens comme ça au beau milieu d'une série, ben ça peut revenir te hanter un peu plus tard. Mais je pense qu'on est rendu, tu sais, t'as pas le luxe du temps en série, je pense qu'on est rendu à ce stade-là, puis tu te croises les doigts pour que Ukko-Pekka Luukkonen réponde aux attentes puis réussisse à faire les arrêts importants que Lyon n'a pas été en mesure de faire hier. Et je suis allé compléter ma petite recherche. 5 défaites de suite pour le Canadien au mois de novembre. Donc, on avait connu une séquence un petit peu plus ardue puis on avait réussi à se relever. Donc, tu sais, le Canadien a eu sa part d'adversité dans les dernières années puis je pense que ça paye aussi en ce moment.
Ça va passer aussi par la discipline. Les Canadiens, présentement, là, c'est l'équipe. On a eu 13 avantages numériques. Là. Ça va prendre cette discipline-là. Puis ça va prendre, pensez juste à la pénalité de Rasmus Dahlin en fin de première période hier. Là,
oui, qui annule son avantage numérique.
Qui annule l'avantage numérique. Je veux dire, ça, c'est un gros problème. C'est ton capitaine. Pas se poser d'arriver.
Dahlin, la journée qu'il a été candidat pour le Norris, il y avait des questions à son sujet, son côté méchant, un mélange de Chris Pronger, un mélange d'Ulf Samuelson. Mais là, il devrait se contenter d'être Rasmus Dahlin. Oublie Chris Pronger, je pense pas que c'est ton identité d'y aller de petits coups sournois entre les sifflets. Joue au hockey, c'est un très bon patineur, c'est un très bon joueur de hockey, mais pour l'instant, c'est moyen. Puis je regardais tantôt, je m'amusais à regarder les stats. Tage Thompson, moins 7. Alex Tuch, moins 6. Après 3 matchs, commence à faire froid pour les deux canons. Est-ce que tu amènes aussi, pour réveiller peut-être Thompson, Tuch, est-ce que tu y vas avec un coup de dé et tu places Zach Benson avec les deux? Peut-être. Tu places Benson à l'aile de tes deux meilleurs joueurs. Lui, il t'amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça reste
un peu à l'image de ce que Lightning a fait avec Brendan Hagel quand on l'a placé avec Nikita Kucherov et Braden Point là, au premier tour. Puis tu parles d'avantage numérique des Canadiens, Nick. Hier, il y a un seul but, mais honnêtement, le temps passé en zone adverse pendant ces avantages numériques-là, le Canadien a visiblement compris comment dominer le désavantage numérique des Sabres. Donc, si les Sabres continuent à être indisciplinés, à un moment donné, le Canadien risque de connaître un match de 2-3 buts en avantage numérique parce que hier, c'était presque des 2 minutes complets en territoire adverse. Puis la grosse différence, le Lightning était très, très agressif sur le porteur de la rondelle. Il n'y avait aucun espace, mais les Sabres sont tellement conservateurs, laissent beaucoup d'espace aux Canadiens pour jongler avec la rondelle. En périphérie, oui, mais ça finit toujours par entrer un peu dans les zones payantes. Donc ça va être un élément à surveiller. Du côté des Sabres.
5 punitions des Sabres en zone offensive. Ça, Lindy Ruff a pris le temps de le mentionner après le match. Tu peux pas gagner un match quand tu y vas de mauvaises décisions comme ça. 5 fois en zone offensive, c'est un petit peu trop.
Puis juste petite correction, c'est 2 buts en avantage numérique hier, les Canadiens. Ouais. Mais justement, là, si en plus tu laisses cet avantage-là, numérique-là, commencer à prendre du rythme, commencer à se retrouver avec Caulfield. On a vu tout ce qu'ils ont fait cette année.
Puis, ouais, il y a Demidov qui a frappé une barre horizontale aussi. C'est 2 buts,
c'est
mais
la
ça. Tu aurais pu passer
c'est
à 3 ou 4.
La dernière chose que tu veux. 3-1 ou 2-2 après le match de demain soir?
Écoute, moi, j'avais prédit Sabre en 6, mais ça va tellement mal que je me dis que ça va être 3-1 CH.
Ouais, moi aussi, je pense que ça va être 3-1. C'est là qu'on va voir le Canadien a les Sabres en grippe en ce moment. Est-ce qu'on va avoir appris peut-être de la première série contre le Lightning, puis on va réussir à porter ce dur coup-là demain avec un centre-Bell qui connaît l'enjeu. Avec une victoire, on s'approche très, 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 très près de la finale de l'Est. Donc, je pense que ça va être 3-1 quand on va s'en aller à Buffalo.
Je pense à 3-1. À moins que Yuko Pekalukonen vole le match, là, il est reposé, puis tout ça, c'est une possibilité. Puis c'est peut-être ça que je devrais dire aussi si je veux que ma prédiction changeante reste du bon côté, puis finalement je l'emporte, parce que j'y crois de moins en moins, les sabres en 6, ça prendrait tout un revirement dans cette série-là. Les gars, je vous laisse partir. JF, tu t'en vas à la pratique des Canadiens. Guillaume, ouais. Tu y vas-tu aussi ou c'est ça?
Moi, je m'en vais dans un luxueux hôtel du centre-ville de Montréal. Bon. Je m'en vais vivre la belle vie. Le temps de 20 minutes.
Tu t'en vas, oui.
Ouais.
C'est ça, je m'en disais. Important de spécifier, tu t'en vas au point de presse des Sabres qui est dans leur hôtel du centre-ville. Exact. Toi, JF, tu t'en vas à Brossard pour l'entraînement. Donc, les gens vont pouvoir lire vos textes. Ça va être en ligne probablement en même temps que le balado. Donc, vous allez pouvoir lire tout ça sur lnh.com. Merci d'avoir été là aujourd'hui.
C'est un plaisir.
On continue à suivre ça. Les gens, merci aussi d'avoir été à l'écoute. Abonnez-vous, comme je dis, pour le balado. Suivez-nous. Prochain épisode. Écoutez, là, ça va dépendre. Honnêtement, là, ça va dépendre de comment la série va évoluer. Quand on retourne à Buffalo, puis tout ça, puis le retour à Montréal. Donc, prochain balado, suivez-nous sur les réseaux sociaux, tout ça, lorsqu'on va partager le tout. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être certain de ne rien manquer. Encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.